Radio Okapi.
Et voici la grande édition de nos informations vespérales et dominicales avec Jocelyne Moussaou-Kalungi.
Les universités non viables interdites d'organiser la faculté de médecine en leur sein. Le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire a signé une note circulaire à ces sujets, rendue publique hier dans la soirée. Des sujets chinois dans l'exploitation artisanale de l'or depuis un mois à Wamba dans la province du Haut-Uele. La société civile dénonce et interpelle les autorités attitrées à faire respecter les textes légaux de la République. Jerry Kajibwami, expert en gouvernance sécuritaire auprès du gouvernement provincial du Nord-Kivu, est notre invité ce soir. Il a animé un atelier de renforcement des capacités des femmes leaders ciblées par la section des affaires civiles de la MONUSCO Goma dans le Nirangongo. Bonsoir à tous. Le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, issu Muindo Zangi, a interdit le recrutement des étudiants dans les universités dont les facultés de médecine sont déclarées non viables. C'est ce qu'indique la note circulaire numéro 33, signée vendredi par le ministre et rendue publique hier dans la soirée. Sur base du rapport du Conseil national de l'Ordre des médecins présenté et adopté lors des travaux des États généraux de l'ESU, tenu à Lubumbashi du 10 au 14 septembre dernier, argumente le ministre de l'ESU, seules 16 universités sont autorisées à recruter les étudiants en médecine. Il s'agit de quelles universités, Richard Junior Kamunga?
Université de Kinshasa, Université de Lubumbashi, Université de Kisangani, Université catholique de Bukavu, Université protestante du Congo, Université évangélique en Afrique, Université de Kikwit, Université officielle de Bukavu, Université de Goma, Université de Tchoumbe, Université catholique de Kraben, Université Congo, Université de Mbandaka, Université libre des pays des Grands Lacs, Université de Kindu, Université officielle de Mbujimayi. Cette décision est selon le ministre conforme aux recommandations des États généraux relatives à l'assainissement du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. Muindo Zangi a instruit toutes les universités non reprises sur cette liste de s'abstenir de recruter ou de programmer un quelconque recrutement des nouveaux étudiants en médecine dès l'année académique 2021-2022. Il ajoute que des dispositions ultérieures préciseront les modalités de réorientation des étudiants des classes montantes des établissements frappés par la mesure de fermeture de la faculté de médecine vers les universités viables appelées à poursuivre les enseignements en médecine.
La province éducationnelle Sud Kivu 1 se félicite du déroulement des activités scolaires pour l'année qui vient de s'achever. Ce sont notamment les mesures de la gratuité de l'enseignement des bases. C'est ce qui ressort des travaux de l'évaluation de l'année scolaire 2020-2021 et la projection de l'année scolaire prochaine au Sud Kivu. Jean-Pierre Yoy Bokieté, directeur de la province éducationnelle Sud Kivu 1, explique au micro de Rachel Kiesé.
À propos de la gratuité d'enseignement, nous avions pris l'engagement d'accompagner la volonté ferme du chef de l'État, qui est une volonté d'abord constitutionnelle, qui stipule que l'enseignement primaire est gratuit dans les écoles publiques. Les enfants qui étaient hors circuit scolaire, aujourd'hui, se sont retrouvés dans les écoles. Aujourd'hui, au niveau des écoles primaires, nous avons 873 000 enfants. Or, les années passées, nous étions à 633 000 enfants. Vous voyez que la gratuité nous a apporté quelque chose de plus. Et puis, nous avons décelé aussi les antivaleurs, c'est-à-dire le non-respect des textes réglementaires. Il y a des écoles publiques au niveau de la ville de Bukavu qui n'ont pas voulu respecter la gratuité de l'enseignement, les mesures de la gratuité de l'enseignement. Et à cet effet, nous tous, nous avons pris l'engagement de faire respecter la gratuité de l'enseignement. Parce que la gratuité de l'enseignement est non négociable. Nous tous, nous sommes pour les conditions socio-professionnelles de l'enseignant. Parce que quand l'enseignant travaille, l'enseignant doit bénéficier de son traitement.
Toujours au Sud Kivu et dans le secteur de l'éducation, le gouvernement provincial interdit la vente des fournitures scolaires, des uniformes et autres objets dans les établissements scolaires publics. C'est là en prévision de la rentrée scolaire prochaine. Tous les acteurs éducatifs doivent décourager le paiement des frais illégaux dans les écoles, dit le ministre provincial de l'éducation. Emmanuel Elamejua Kabedi nous fait le point.
C'est le ministre provincial de l'éducation du Sud Kivu qui signe un communiqué rendu public ce week-end à Bukavu. Pour décourager cette pratique qui transforme les écoles en marché public de vente de biens, le ministre Mizumbi Namutondo met en garde les chefs d'établissement qui s'adonnent déjà à la vente des objets scolaires. Déjà à Bukavu en ce moment, certaines écoles, en dehors de la vente des objets scolaires et uniformes obligatoirement, ces établissements scolaires imposent les frais dits de confirmation et bien d'autres encore. Une pratique par laquelle les écoles font payer les frais illégaux à la place de la gratuité de l'enseignement de base. Ainsi, le ministre provincial de l'éducation en appelle à tous les partenaires éducatifs et aux parents de s'engager pour l'application sans faille de la circulaire qui fixe les frais de scolarité 2021-2022 qui décourage aussi les frais illégaux. Emmanuel Lamijo Akabedi, Bukavu Radio Okapi.
Je l'ai dit dans les titres, dans la province du Haut-Uele, la société civile du Congo, territoire de Wamba, s'oppose à l'exploitation artisanale de l'or dans cette entité par des sujets chinois qui s'y trouvent depuis environ un mois. Dans un communiqué de presse publié vendredi dernier, cette structure citoyenne interpelle le chef de l'État ainsi que le ministre en charge des mines pour qu'il fasse respecter les textes légaux de la République, notamment l'interdiction de l'exploitation minière artisanale par des étrangers. Le point avec Jacques Mkonkole.
La société civile explique que l'article 19 bis et 111 du code minier congolais interdisent l'exploitation artisanale des minerais à tous les étrangers. Pour Patrick Ambaïso, président de cette structure citoyenne, le séjour des Chinois à Wamba est illégal. En réaction, le ministre provincial en charge de l'Intérieur et Sécurité déclare que leur présence à Wamba a pour objectif notamment d'appuyer les coopératives minières locales. Crispin Alibou.
Nous sommes en train de créer de plus en plus de VA pour permettre aux Congolais de se recouvrir. À coopérative. Et voilà pourquoi les Chinois qui viennent avec ces matériels l'intègrent les coopératives congolaises et ils essaient d'accompagner les Congolais. Et maintenant, les gens, ils interprètent comme les Chinois venaient travailler demain, boiter de l'or illégalement.
La société civile croit plutôt le contraire. Les Chinois sont là pour exploiter à leur propre compte. Patrick Ambaïso.
Ce n'est pas pour accompagner les orpailleurs qui sont sur place. Puisque si tel est le cas, on devrait déjà appeler tous ces orpailleurs au niveau de la chefferie pour échanger avec eux.
La société civile dit avoir écrit au ministre des Mines pour le retrait des sujets chinois du territoire de Wamba. Cependant, le ministre provincial en charge de l'Intérieur espère le développement de cette entité grâce notamment à l'apport des Chinois. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
En politique, le mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement plaide pour la refondation de la RDC afin de bâtir un État pour tous, gage de son décollage et son développement intégral. C'est ce qu'a déclaré hier samedi à Kinshasa, le secrétaire général de ce parti, lors de la commémoration de l'an 1 de ce parti de l'opposition extra-parlementaire. Pour Augustin Bissimois, la RDC a besoin de réformes constitutionnelles et institutionnelles en vue d'être bien administrée. Aussi, il faudra mettre les millions de Congolais au travail pour qu'ils se prennent en charge. Ces propos ont été recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
Nous prenons la refondation de l'État congolais parce qu'au niveau du MDVC, nous avons réalisé que l'État congolais n'existe plus que des noms. C'est-à-dire que l'État congolais a quatre éléments qui le constituent. Vous avez les territoires, vous avez la population et les frontières. Nous analysons les substances, nous trouvons que les frontières sont aujourd'hui vides. Les ennemis y traversent ces camps. Nous avons un territoire très vaste mais qui n'est pas administré. Même les habitants des territoires ne sont pas émargés au budget de l'État. Comment voulez-vous qu'un habitant de l'État qui n'a pas de moyens puisse administrer un territoire? Le troisième élément, on parle du gouvernement. Et donc nous sentons qu'aujourd'hui, y compris même la population qui est estimée à plus de 100 millions d'habitants, c'est-à-dire qu'il faut arriver à réfléchir et voir comment est-ce que cette population peut se prendre en charge.
Et vous estimez que cette population pourra amener le RDC à l'évolution ?
Absolument, parce que nous allons d'abord procéder aux réformes des politiques publiques de l'État. Alors il faut renouveler, il faut arriver à amener de bonnes réformes constitutionnelles et institutionnelles. Aujourd'hui, nous voulons remettre l'administration dans ses fonctions régaliennes afin qu'on puisse s'assurer d'un développement intégral.
Selon Augustin Bissimois, à un an de son existence, le mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement est bien implanté dans 9 provinces de la RDC ainsi qu'à l'étranger au sein de la diaspora. Rendons-nous dans la province du Maniema où les ressortissants du secteur des Babouyou dans les territoires des Kabambaré se disent préoccupés par la détérioration de la situation sécuritaire de leur entité. Dans une interview accordée hier samedi à Radio Kapi, le président de la mutualité de Babouyou condamne les attaques et tueries à répétition attribuées au groupe Mai Mai et le silence des autorités tant provinciales que nationales. Le dernier cas est celui survenu jeudi dernier, des affrontements ayant opposé les FARDC et Mai Mai, occasionnant 3 morts et les déplacements massifs des populations. Mastaki Aongo Joli ajoute qu'il y a un besoin de renforcer les forces de sécurité dans cette partie de la province du Maniema. Mastaki Aongo Joli s'exprime au micro de Florence Kiza.
Dans notre secteur, il y a une partie occupée par les pygmées qui sont venus attaquer une position des FARDC. Ils ont tué plusieurs personnes. Et ce qui me fait très mal, c'est la manière dont on commence à tuer, qui ressemble à la manière dont on tue à Beni. On commence à décapiter les gens. Mon secteur a connu beaucoup de problèmes qui sont en rapport avec l'insécurité. Mais nous constatons toujours une intervention timide. Il y a un silence de la part des autorités. C'est pour cette raison que j'attire l'attention des autorités, tant provinciales que nationales, d'avoir un œil regardant sur la sécurité dans le secteur des Babouyou. Il s'est remarqué chez nous là-bas un sous-effectif des agents de l'ordre ou les éléments des FARDC. Nous sommes victimes de plusieurs attaques et il arrive parfois que les forces sont incapables de résister parce qu'ils sont à sous-effectif. Nous voudrions qu'on puisse renforcer l'effectif des agents de l'ordre et des FARDC dans le secteur des Babouyou.
Restons dans le Maniema où 23 détenus, dont une femme, de la prison centrale de Kindu vient d'être libérée. Ceci dans le cadre de l'exécution de la 4e vague de la grâce présidentielle signée le 28 juillet dernier. La cérémonie marquant leur libération a eu lieu hier samedi et a été présidée par le ministre provincial de l'EPST faisant l'intérim du gouverneur en mission de Kindu. La correspondance de Florence Kizalunga.
Avant leur libération, le procureur général près la cour d'appel du Maniema a montré que l'acte du chef de l'État ne vient pas consacrer l'impunité, mais un acte de pardon.
Il a été remarqué que toutes les fois que nous avons libéré les condamnés de cette manière, la criminalité monte encore au créneau. L'occasion est maintenant donnée à nous adresser à ces condamnés pour qu'ils puissent réellement s'amender et se ressocialiser pour vivre comme tous les hommes honnêtes.
Le représentant du gouverneur a pour sa part exhorté les bénéficiaires de cette grâce à choisir la formation professionnelle pour s'auto-prendre en charge.
Nous demandons aux bénéficiaires de ne plus revenir à la commission de ces actes infractionnels. Nous leur demandons d'entrer dans le centre de la formation professionnelle.
Le directeur de la prison lui plaide pour l'accélération des dossiers.
Je demande à toutes les autorités d'avoir un œil pieux sur les prisonniers pour essayer un peu d'accélérer leurs dossiers afin qu'on désengorge davantage cette prison.
La prison de Kindu compte à ce jour 409 détenus, dont 10 femmes et 18 mineurs. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
À Butembo, les autorités invitent les habitants à faire preuve de vigilance pour ne pas laisser les violences enregistrées récemment dans la chefferie des Bachou s'importer dans la ville. Le bourgmestre de la commune Boulengera, où sont arrivés de nombreux déplacés qui ont fui les violences, appelle ses administrés à faire preuve de générosité tout en restant vigilant. Le commissaire supérieur principal, Willy Ilunga Mungedi, invite les habitants de sa commune à signaler toute arrivée suspecte auprès des autorités. Écoutez-les au micro de Grévis Salomon.
Tant que dirigeant de l'entité qui est plus beaucoup en frontière avec la chefferie, nous sommes donné l'obligation d'évaluer aussi passer dans les différents quartiers des communes, notamment Kalemire, Kamisimbonzo, Wayene, là où il y avait le mouvement de déplacés, en vue de s'enquérir, faire les statistiques réelles et les transmettre au service qui doit s'occuper de ces déplacés-là. Le constat est amer. Nous avons effectivement vu qu'il y a des mouvements de déplacés, les gens qui fuient les hostilités. Néanmoins, ici sur place, le maire de la ville ainsi que les services titrés, habilités à assister les déplacés, sont mobilisés pour venir en aide aux déplacés qui viennent des salles. Comme il y a un mouvement comme ça, nous avons demandé aussi à la population d'être vigilante pendant ces moments, dénoncer tout ce qu'ils trouvent comme suspect dans ces mouvements-là pour nous permettre de faire quoi? De rassurer la sécurité des personnes et des biens. Quand il y a une parfaite collaboration entre les services et la population, ils ont les numéros verts. Chaque fois, quand il y a un mouvement suspect, quand il y a quelqu'un qui est suspect et on nous appelle, nous allons l'interpeller et puis faire le travail.
Selon Mississa Moussa Bahé, secrétaire administratif de la chefferie de Bachou, la situation est pour le moment calme sur place après les attaques armées qui ont fait plusieurs morts la semaine dernière. Mais le déplacement de la population en direction de la ville de Boutembo se poursuit.
Actualité internationale.
En Guinée, l'ancien ministre d'État, ministre de l'Industrie et des PME et porte-parole du gouvernement Thibault Camara a été arrêté dans la nuit d'hier à ce dimanche à son domicile par des hommes armés et cagoulés, selon un de ses proches. Ils sont arrivés vers 1h du matin. Sans attendre, ils ont commencé à casser les portes et l'ont embarqué vers une destination inconnue, déplore ce proche de Thibault Camara. Décès d'Abdelaziz Bouteflika, Emmanuel Macron salue une figure majeure de l'Algérie et un partenaire exigeant pour la France. Le président français Emmanuel Macron a qualifié ce dimanche l'ex-président algérien décédé vendredi 17 septembre à 84 ans des figures majeures de l'Algérie contemporaine et de partenaire exigeant pour la France durant ses 20 années au pouvoir. Le chef de l'État français a adressé dans un communiqué publié par l'Élysée ses condoléances au peuple algérien et déclaré rester engagé à développer des relations étroites d'estime et d'amitié entre le peuple français et le peuple algérien.
L'invité.
Notre invité est Géry Kaji Bouami, expert en matière de la gouvernance sécuritaire auprès du gouvernement provincial du Nord Kivu. Il a animé un atelier de renforcement des capacités des leaders féminins ciblé par la section des affaires civiles de la MONUSCO Goma dans le Nirangongo. Il s'agit de l'implication de la femme dans la chose publique, dans son volet gouvernance sécuritaire. Pourquoi associer les femmes à la gouvernance sécuritaire? Quel peut être l'apport de la femme dans la gouvernance sécuritaire? Sécuritaire, Géry Kaji Bouami répond dans cet entretien qu'il a accordé à Mathieu Ilunga.
Monsieur Kaji Bouami, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes expert et facilitateur de cet atelier qui touche le renforcement des capacités des leaders féminins par rapport à la gouvernance sécuritaire. Pourquoi vous avez pensé encadrer les femmes sous cet aspect?
En fait, nous avons fait un constat malheureux, c'est que la plupart de nos gouvernants n'associent pas les femmes dans la recherche de la sécurité dans le territoire de Nyiragongo. C'est pourquoi avec notre partenaire de la MONUSCO, des affaires civiles, nous avons estimé qu'il était important qu'on puisse donner les notions de la gouvernance sécuritaire à la population de Nyiragongo, mais avec un accent particulier sur la femme. C'est pourquoi d'ailleurs, dans la sélection des participants, nous avons à peu près 25 femmes et 15 hommes, dont les autorités du territoire, les autorités de la chefferie, mais aussi des groupements et des villages. Alors, la gouvernance sécuritaire, en fait, telle qu'une nouvelle approche de la sécurisation de nos milieux, nous dit qu'il faut faire participer tout le monde. Il faut faire participer et la femme, et l'homme, et l'handicapé, et tout le monde pour concourir tous à la sécurité. C'est pourquoi aujourd'hui nous nous retrouvons dans le territoire de Nyiragongo, plus précisément ici à Munigi, où nous sommes en train de capaciter, mieux renforcer les capacités des femmes et des hommes pour une bonne gouvernance sécuritaire.
Pensez-vous que faire participer la femme ou les femmes dans la gouvernance sécuritaire, ça peut produire quelque chose pour le Congolais?
Vous savez, en fait, nous, les Congolais, nous avons tendance à négliger les femmes. Mais moi, je pense plutôt que les femmes sont mieux placées pour nous donner toutes les informations possibles par rapport à la sécurité de notre territoire. Vous savez, d'abord, la femme, c'est elle qui va au champ. La femme, elle est à la maison. La femme, c'est elle qui vend les différentes sortes de boissons. La femme, c'est elle qui accueille les visiteurs dans les villages. Et que donc, la femme a plus d'informations. La femme maîtrise mieux son environnement que l'homme. C'est pourquoi, si nous voulons vraiment que notre milieu soit sécure, si nous voulons vraiment que nous puissions mener à bon port la sécurisation de nos milieux, il faut absolument associer la femme pour qu'elle nous apporte les informations capables de nous amener à faire le travail comme il se doit.
Vous êtes expert en cette matière. Je comprends, vous sous-entendez que l'homme a échoué là où la femme peut réussir.
Non, je n'ai pas dit que l'homme a échoué, mais l'homme a besoin de cette autre main qui est la main de la femme pour pouvoir rendre un bon service à la population. Parce que tous, nous devons tout faire pour concourir à la sécurisation de la population. Et que donc, travailler seul, l'homme ne va pas y parvenir s'il n'associe pas la femme qui est d'ailleurs mieux placée pour donner beaucoup plus d'informations par rapport à la sécurisation.
Qu'est-ce que vous apprenez à ces femmes pour qu'elles puissent parvenir à aider à concourir avec l'homme?
Oui, à la femme, nous donnons les différents principes de la gouvernance sécuritaire. Nous leur disons qu'il faut qu'ils participent effectivement à ce travail, il faut qu'ils aient un consensus, qu'ils aient une certaine proximité avec l'homme pour évidemment échanger et arriver à sécuriser leur milieu. Donc, c'est pas dire que l'homme a échoué, mais c'est plutôt demander à ce que la femme, qui a aussi une autre perception de la sécurité, puisse apporter son concours afin que le travail soit fait par tout le monde au profit de la population.
Alors, une idée de ce que vous pouvez doter ou inculquer à la femme pour qu'elle puisse bannir la peur et la crainte de l'homme. Et
effectivement, c'est ça même l'objectif de cette réunion qui met un accent particulier sur la femme. Parce que depuis longtemps, la femme, comme vous venez de le dire, la femme a toujours été timide, la femme a toujours cru qu'elle est un sous-homme, la femme s'est toujours sous-estimée et nous sommes en train de lui demander de braver cette peur, de prendre ses responsabilités et de se considérer comme égal à l'homme. Parce qu'en fait, même la loi congolaise, elle dit, même la Déclaration universelle des droits de l'homme dit, nous sommes tous égaux devant la loi. Et que donc, la femme, elle est intelligente, la femme, elle peut réfléchir tout autant que l'homme, et que donc, elle doit se surpasser pour concourir à la sécurisation de nos milieux. C'est pourquoi, d'ailleurs, parmi les modules que nous avons sélectionnés, il y a un module qui parle du genre et de l'égalité entre hommes et femmes. Et nous sommes en train, effectivement, d'apprendre à la femme d'être dynamique, d'être à côté de l'homme, d'être à côté de l'homme qui est son partenaire pour pouvoir apporter sa pierre à la construction de l'édifice.
Monsieur l'expert, je vous dis merci.
C'est moi qui vous remercie.
Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.